Alors, la lecture est dans Jean 4, 1 à 26. C'est Jésus et la femme de Samarie. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif? Comment oses-tu donc me demander à boire à moi une samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua, « Maître, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ? » ?»« Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. La femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus besoin de vivre, venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus déclara, « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari. » Car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme s'exclama, « Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » Jésus lui répondit, « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Dans cette série sur les réveils, puisque nous sommes là tout au milieu de cette série sur les réveils tous les mercredis soirs, je suis heureux que vous ayez repris l'exposition que la Société évangélique de Genève avait créée en l'an 2000 pour le musée de Poix-Laval. Ce fut un très gros et très beau travail. Et je vous encourage à regarder les différents panneaux qui sont là, vous apprendrez des tas de choses, et à acheter pour 5 francs seulement, je crois, la petite brochure dont il reste encore des exemplaires depuis ce temps-là. Mais qu'est-ce que le réveil a voulu d'abord ? Eh bien, tout simplement, retrouver les grandes affirmations de la Réforme. Et c'est pas pour rien que cette série sur le réveil, c'est dans le cadre, comme vous l'avez voulu, de l'année Calvin. Les grandes vérités de la Réforme que l'Église avait un peu oubliées, et que la théologie, que la philosophie des Lumières avait, si je puis dire, si vous osez cette comparaison, la philosophie des Lumières avait obscurci. Et le réveil a surtout voulu redécouvrir la personne de Jésus, et la personne de Jésus, le Sauveur, le Seigneur. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui, comme alors, et peut-être encore plus qu'alors, une grande confusion sur la personne de Jésus. Depuis plusieurs années, par exemple, à Vevel, pour toute la période de l'Avent, dans le mois de décembre, il y a dans la plupart des magasins des grandes expositions sur les différentes crèches du monde entier. C'est d'ailleurs très joli dans des tas de magasins. Alors, il y a des crèches de Chine, d'Arménie, de Sicile, de Madagascar, d'Afrique, de partout dans le monde. Et bien sûr, il y a le bébé Jésus au milieu. Mais les gens qui passent là, pour eux, qui est Jésus vraiment? Y a-t-il pas une grande confusion aujourd'hui comme autrefois? D'ailleurs, cette confusion n'est pas d'aujourd'hui. Déjà du temps de son ministère terrestre, nous voyons souvent dans l'Évangile les interlocuteurs de Jésus être perplexes face à sa personne et lui poser toujours cette question. Par exemple, dans Matthieu, au chapitre 13, verset 54, suite à l'enseignement de Jésus sur les paraboles, il nous est dit, je cite, « Jésus enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui entendaient étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? D'où lui viennent toutes ces choses ?» Ces questions, ces interrogations, ce trouble aussi, fut parfois extrêmement vif dans l'évangile de Jean, un peu plus loin du texte que nous avons lu tout à l'heure. Il nous est dit, il y eut de nouveau division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. « Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Et plus le ministère de Jésus prenait de l'ampleur, plus ces questions sur sa personne et sa nature se faisaient pressantes. Toujours dans l'évangile de Jean, il nous est dit, « C'était l'hiver. » Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Qui est Jésus en vérité? Tout le monde connaît son nom, mais qui est-il vraiment et quel est le sens de sa venue? C'est une question fondamentale. Elle a d'ailleurs traversé les siècles. C'est la raison des premiers conciles dans l'histoire de l'Église. Et c'est encore une question actuelle, plus actuelle que jamais. Pour les uns, aujourd'hui, Jésus, c'est le premier socialiste, ou même le premier révolutionnaire. C'est toute la pensée de la théologie de la libération, cher à quantité de théologiens, notamment sud-américains. Pour d'autres, au contraire, C'est le cas d'ailleurs d'un auteur américain qui l'a écrit récemment. C'est lui qui fonde, c'est Jésus qui fonde et qui justifie le capitalisme. Pour d'autres encore, c'est un grand initié. C'est un homme saint que Dieu a accueilli comme son fils lors de son baptême. Ou alors c'est un grand mystique. L'écrivain Renan au XIXe siècle, qui a eu son heure de gloire, parlait de Jésus comme, je cite, le doux rêveur galiléen. Et ainsi on a plusieurs Jésus, hein. Certains plus mystiques, d'autres plus philosophiques, d'autres plus politiques. Qui est Jésus vraiment? C'est cela que le réveil a voulu retrouver, la personne de Jésus et de Jésus le Sauveur. Oui, qui est Jésus? Un petit bébé dans la crèche? Un fondateur religieux? Le premier révolutionnaire? Le premier capitaliste? Un mystique? Qui est-il en vérité? Encore une fois, c'est une question fondamentale. Notre salut, tout notre salut en dépend. Notre vision de Dieu en dépend. Notre vision du monde en dépend. Notre vision de l'Église en dépend. C'est le théologien Karl Barth qui disait « Dis-moi quelle est ta christologie, donc ta doctrine du Christ, dis-moi quelle est ta christologie et je te dirai qui tu es. » Et pour répondre à cette question capitale, l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine est, je crois, un excellent exemple. D'abord, Jésus est humain et divin. Le récit qui a été lu tout à l'heure, hein, nous le montre en effet très humain. Après avoir fait une longue marche, comme tout un chacun, il est fatigué. Il a besoin de s'asseoir pour se reposer. Et c'est la margelle d'un puits qui lui sert de siège. Il est même tellement fatigué qu'il laisse ses disciples aller au village faire des commissions pour le pique-nique parce que il est probablement trop fatigué pour y aller lui-même. Et il a faim. C'est pas encore pour ça qu'il envoie ses disciples faire des courses. Et puis il a soif, car c'est midi, il fait chaud. Et c'est d'ailleurs la première demande qu'il fait à la femme samaritaine, « Donne-moi à boire, j'ai soif. » Et ainsi, non seulement ici, mais tout au long de l'Évangile, nous voyons le caractère éminemment humain de Jésus. Il dort dans une barque, et même au plus fort de la tempête, encore une fois tellement il est fatigué, il pleure quand un de ses amis décède. Et comme tout jeune homme, il apprend un métier, et même un métier très physique, très masculin. Il est charpentier. Il naît, comme tout le monde, après avoir été porté pendant 9 mois par une jeune femme qui l'emmaillote, hein, dans des langes comme tout bébé du monde. Mais Jésus est aussi divin. À la Samaritaine qui s'étonne de sa demande, il lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, il t'aurait donné de l'eau vive. » Et cette parole est bien sûr une allusion à cette autre parole du prophète Ésaïe « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez sans argent, sans rien payer. » Et Jésus se présente comme celui qui accomplit cette parole. Et même il prétend et il revendique être supérieur au patriarche Jacob. C'est d'ailleurs ce qui étonne cette femme. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau du puits de Jacob, justement. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et quand cette femme parle du Messie, Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus est aussi divin par la connaissance qu'il a de cette femme en lui disant « Tu as eu 5 maris, L'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Jésus manifeste ainsi une connaissance qu'un simple homme ne peut pas avoir. Et puis bien sûr, dans l'Évangile, nous voyons, et notamment dans les récits de Noël, toute la nature divine de Jésus. Les anges viennent chanter sur la terre, le ciel lui-même fait briller les étoiles, et surtout le Saint-Esprit vient d'une manière miraculeuse sur Marie. La première chose que ce texte nous dit, c'est que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Mais pas 50% homme et 50% Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Et ces deux natures cohabitent en lui sans séparation ni confusion, sans transformation ni division, comme l'exprime la fameuse confession de foi dite de Chalcédoine. Mais ce texte de la Samaritaine nous révèle aussi un Jésus innovateur et conservateur. Innovateur, il est, et d'une manière même assez radicale. Lui, un juif, parle à une Samaritaine, ce qui ne se faisait jamais, le texte d'ailleurs le souligne. Les juifs orthodoxes faisaient même un immense détour quand ils allaient de Galilée en Judée ou de Judée en Galilée. Ils ne voulaient pas traverser la Samarie, ils traversaient le Jourdain, ils préféraient passer chez les païens que de traverser la Samarie. Et Jésus, lui, au contraire, passe dans la Samarie. Et Jésus brise ce tabou de la séparation. Et ce qui étonne profondément cette femme, comment toi tu es juif et tu me parles à moi qui suis samaritaine? Mais Jésus brise encore un autre tabou. Lui qui est un homme parle à une femme, ce qui ne se faisait jamais dans un lieu public. C'est pourquoi cette femme est encore plus surprise. Et enfin Jésus brise un troisième tabou. Lui, un homme pieux, un homme juste, s'adresse à une femme qu'il sait pécheresse et qui vit une situation conjugale irrégulière. On a de la peine aujourd'hui à imaginer la révolution de l'attitude de Jésus. Il brise le tabou racial entre les juifs et les non-juifs. Il brise le tabou social entre les hommes et les femmes. Il brise le tabou moral entre les justes et les pécheurs. Mais en même temps qu'il est très innovateur, on pourrait dire là vraiment révolutionnaire, dans ces trois domaines, et ces trois domaines fondamentaux, Jésus est aussi conservateur. À cette femme interpellée par la liberté de Jésus, il répond: nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ce qui revient à dire, nous avons reçu la révélation, nous avons reçu la parole de Dieu, elle est vraie, elle ne change pas. Et tout au long de son ministère, jusque dans son conflit avec les pharisiens et les sadducéens, Jésus a respecté, Jésus a suivi, Jésus a authentifié tout l'Ancien Testament. Il a d'ailleurs bien précisé, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et il a même ajouté, il ne disparaîtra pas un seul iota, ni un seul trait de lettre de la révélation. Et quand on lui pose la question sur le divorce, est-il possible de répudier sa femme pour un motif quelconque? Comment est-ce que Jésus répond? C'était une question brûlante, et elle est toujours actuelle d'ailleurs. Que dit Jésus? N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Il répond donc par l'Écriture, en revenant à l'Écriture, au plan du Dieu Créateur. Il n'adapte pas la parole de Dieu à la morale ambiante, hein, à la mode du moment. Non, c'est la parole qui fait autorité. Et elle ne change pas. Jésus ne prend aucune liberté avec la parole de Dieu. Il n'essaye pas de la démythologiser, hein, comme certains ont essayé de le faire, essayent toujours d'ailleurs, de le faire. Hein. Il la prend telle qu'elle est, avec ses promesses, mais aussi avec ses exigences. Ainsi, Jésus fait une grande différence entre la tradition et la révélation. Il est innovateur quant à la tradition et conservateur quant à la révélation biblique. Il est même extrêmement sévère, hein, envers ceux qui, comme il le dit lui-même, annulent la parole de Dieu au profit de la tradition. On pourrait ajouter, hein, ou de la pensée à la mode, ou de la philosophie du moment. Et je crois qu'il est très important de comprendre cela. Parfois, dans beaucoup d'églises, il me semble, c'est certainement pas le cas ici, mais dans beaucoup d'églises, il me semble qu'on est au contraire très conservateur quant à la tradition et très innovateur quant à l'écriture. Alors que Jésus fait exactement le contraire. Et il nous faut, nous aussi, être innovateurs quant à la tradition. Par exemple, les chants, d'ailleurs, en effet, les chants du réveil sont plus guère chantés aujourd'hui. Je trouve que c'est d'ailleurs dommage. Et les psaumes aussi sont plus guère chantés. C'est aussi dommage. Hein. Mais c'est bien d'être innovateur quant à la tradition, même la tradition de nos chants, la forme du culte, la liturgie, hein, et conservateur quant à la vérité biblique qui, elle, ne change pas. Et notamment quant à l'origine de la vie, quant au mariage, quant aux relations sexuelles, quant à l'homosexualité et quantité d'autres choses. Et il est important de savoir séparer les deux. Et je crois que c'est justement une des leçons du réveil. Le réveil a été très innovateur quant à la tradition, mais il a été très conservateur quant à l'écriture. Il a voulu retrouver l'écriture à une époque où on l'avait oublié, puisque vous pouvez le lire d'ailleurs dans la brochure que Amibos raconte qu'en 1809, on n'ouvrait pas la Bible à la faculté de théologie de Genève. Il dit, on pouvait ne pas avoir la Bible, on ne l'ouvrait pas, c'était que de la philosophie. Hein. Ils ont voulu retrouver l'écriture et en même temps, ils ont été extrêmement innovateurs quant à la tradition. Et enfin, dans ce récit de la Samaritaine, Jésus apaise et Jésus dérange. Oui, il apaise cette femme. Il va lui donner cette eau vive à laquelle, secrètement, elle aspire. Il va même la réconcilier avec elle-même et avec son village. Mais il va d'abord la bousculer. Va, appelle ton mari. Et cette femme, alors, elle est dévoilée. Elle peut plus se cacher. Oh, elle va utiliser un faux fuyant. J'ai pas de mari. Elle va essayer de shooter en corner, on dirait aujourd'hui. Hein? Mais Jésus, hein, lui met le doigt sur son problème. Alors il va faire grâce. Mais la grâce de Jésus n'est jamais à bon marché. Il va d'abord mettre le doigt, oui, où ça fait mal. Oh, il le fait avec infiniment de tact et d'amour. Mais il met en lumière le désordre de sa vie. Hein? Il va révéler le fond de son sac. Hein? Il va révéler au fond son péché, qu'elle essayait pourtant de tenir caché. Et il va l'amener à confesser ce qu'il y a au fond de son cœur et au fond à se repentir. Et il y a là, je crois, un message d'une très grande actualité. On parle beaucoup d'amour aujourd'hui. Hein? Mais de quel amour s'agit-il? On parle beaucoup de la grâce aujourd'hui. Hein? Et on chante beaucoup la grâce, et on a raison d'ailleurs. Mais de quelle grâce s'agit-il? Et puis, on aime parler beaucoup de tolérance. Hein? Car Dieu est venu pour tous, quels qu'ils soient. Mais là encore, de quelle tolérance s'agit-il? J'ai parfois l'impression qu'on parle, et parfois même qu'on prêche, d'un amour sans fidélité. d'une grâce sans repentance, d'une tolérance sans discipline. Mais en disant cela, est-ce encore l'Évangile? Est-ce encore le Jésus des Écritures? Il est donc urgent, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que témoin de Jésus-Christ, d'annoncer Jésus tel qu'il se présente lui-même, tel que l'Écriture nous le décrit, tel que nous le voyons dans ce passage, à la fois humain et divin. Humain, c'est-à-dire proche de nous, car il a été fait semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. Il peut donc nous comprendre, il peut donc nous accompagner, mais pleinement divin pour pouvoir nous pardonner et nous donner la vie éternelle. S'il n'était pas pleinement divin, comment pourrait-il nous donner la vie éternelle? Un Jésus à la fois innovateur et conservateur, un Jésus brisant tous nos tabous, qui nous lie, qui nous divise, mais revenant toujours à la parole de Dieu qui peut fonder notre foi et nous affermir sur le rocher solide de la révélation qui, elle, ne change pas. Et puis un Jésus à la fois qui apaise et qui dérange, c'est-à-dire qui met le doigt sur notre péché, qui met le doigt sur nos manquements, mais pour nous accorder le pardon, mais pour nous donner la paix. C'est ce Christ-là que le réveil a voulu retrouver. C'est ce Christ-là de l'entretien de Jésus à la femme samaritaine, qui a été au fond la première missionnaire, puisqu'ensuite on n'a pas lu la fin du texte, mais vous le connaissez. Elle va dans son village et elle dit « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Et elle peut le dire parce qu'elle a été libérée, parce qu'elle a été pardonnée, parce qu'elle a pu dire à Jésus ce qu'il y avait au fond de son sac, au fond de son cœur. Le monde, nos contemporains, ont besoin de connaître un Jésus proche d'eux, parce qu'il est homme, mais aussi ils ont besoin d'avoir un vrai sauveur, parce que divin. Un Jésus qui nous annonce des certitudes dans sa parole, parole de vie et de vérité, dans un monde qui a perdu ses repères. Mais un Jésus qui nous libère aussi du carcan de toutes nos traditions humaines. Un Jésus qui apaise les consciences troublées, qui guérit les cœurs brisés, parce que nous pouvons lui apporter tous nos manquements et tout notre péché. Et pour que ce monde connaisse ce Jésus, discipline. C'est la meilleure manière, de promouvoir le réveil des églises. Car le réveil commence toujours quand nous sommes réveillés. Amen.